Yeah, again. Comme je l'avais nous à rassembler, laquelle c'est la nation de Kehila. Il a rassemblé Kol Adat Bnei Israël. On peut dire Kol Bnei Israël, tous les Bnei Israël. Il les a rassemblés et ils forment à ce moment-là, ils sont présentés comme une Eda. Dans Eda, la racine de Eda, c'est Ed, c'est témoignage. Donc c'est une communauté témoignante, si vous voulez, le clan Israël. Il y a une dimension de témoignage dans la, quand on parle d'une Eda. Donc, la communauté témoignante des Bnei Israël, ils ont tous rassemblés. Alors évidemment, quand on rassemble les gens, c'est quand même quelque chose d'important à leur dire. Et ce qu'il va leur dire, on sait déjà un petit peu ce qu'il va leur dire parce que Rashi nous dit tout de suite que quand a eu lieu ce rassemblement, le Maharat, le lendemain du Yom Kippour. Qu'est-ce qui s'est passé à Yom Kippour? Moshe Rabbeinu est redescendu avec les Louchot. D'accord? C'est donc la preuve qu'Hachem avait pardonné au clan d'Israël la faute du Vaudor. Donc le lendemain, Moshe Rabbeinu les convoque, il rassemble tout le monde, Vayomer Alehem, et il leur dit, Rachidi, le Maharat Yom HaKippurim, que chez Yarad min ha'ar, vehu lashon if'il. Yakel, ça veut dire, c'est un if'il. Il a fait rassembler en réalité, il a arrangé que les Bnei Israël soient rassemblés. Vayomer alehem, il leur a dit, Eile hadvarim asher tziva Hashem la'asot otam. Voici les choses qu'Hachem a ordonné de faire. Si on vous demande comme ça, qu'est-ce que Moshe Rabbeinu l'a donné comme ordre, Motzei Yom Kippour, au Bnei Israël? Jusqu'à présent, qu'est-ce que Moshe Rabbeinu a donné comme ordre? Avant Parashat Vayakel, avant qu'on lise la Parashat Vayakel. Non.
Le Mishkan.
Quand il est descendu, il a donné l'ordre du Mishkan. Et dans le texte qui parle du Mishkan, si vous reportez au texte, effectivement, Hachem, enfin mon cher ami, il répercute l'ordre. Hachem a donné. Sur avec les détails. Et ensuite, après avoir donné les lois du Mishkan, si vous retournez au Parashat Kitissa, au chapitre Lamed Aleph, 31, Pasuk Les psukim sur le Mishkan, vous voyez le début du chapitre 31, Lamed Aleph. Kati b'shem b'tzalel b'nuri b'nchu v'amale oto, etc. Vani ine natati ito liav, et il faut construire le Mishkan, etc. Et puis là, maintenant, dans le pasuk Yudbet de ce chapitre Lamed Aleph, pardon, Hashem dit à Moshe Rabbeinu, Ve'ata, et quant à toi, toi, Daber el Ben Israël, parle au Ben Israël, et vous voyez, Daber el Ben Israël, c'est pas Emor, c'est Daber, tu leur parles dur, et tu leur dis, Ach, Ach, c'est toujours un petit mot qui veut dire, qui est un miout. On va dire, un instant, Ach, ça veut dire, mais seulement, je mets une limitation à ce qui a été dit. Je vous ai donné l'ordre de construire le Mishkan. Ach, et Shabbatotai Tishmoru. Mais mes Shabbatot, il faudra les tenir. Parce que c'est Ot hi, Beni ou Benechem, Dorotechem, la date qui a ni Hashem, qui a ni Hashem et Kadishrem. Pour que vous sachiez que c'est, que moi, je vous sanctifie. Donc, il avait le Mishkan, les ordres du Mishkan, et ça c'est évidemment après Yom Kippour, parce qu'avant il était sur la Sinaï, on n'a pas encore le pardon, donc on est à Kippour, le lendemain il donne des ordres concernant le Mishkan, ensuite les gens ils ont apporté, et puis après c'est Sukkot, on est à Sukkot. Et ici, on nous rapporte que le lendemain de Kippour, mon cher Rabbeinu, on ne parle pas encore de donner les lois de revient en quelque sorte, on ne parle pas des lois du Mishkan, mais on parle de ce que tu disais d'avant, mais de Shabbat. Et là, Dvarim, Asher Tziva Hashem, la'asot otam, qu'est-ce qu'il faut faire? Sheshet Yamim. Tassem Lacha, pendant 6 jours, elle sera faite, la Mlacha. Ou Bayom HaShvi'i, mais le septième jour, Yelachem Kodesh, ce sera Kodesh pour vous, Shabbat Shabbaton Lachem. C'est un Shabbat, chômage donc pour Hachem. Et Kola Ose Bo Mlacha Yumat. Et tout celui qui fera un travail sera mis à mort. Donc, Rashi dit, que si Yarad Minahar, vous lâchez ni fin, oui, chez nous, Osef Anashim Beyadaim, pourquoi est-ce que c'est, il a fait rassembler, évidemment, Moshe Rabbeinu n'est pas allé à la main rassembler les gens les uns après les autres. Et là, Hen Nesafim Alpidiburo, les Bnei Israël se sont rassemblés après qu'il en ait donné l'ordre. Ve'tirgumo va'achnish. Mais il a traduit va'achnish, le onkeles, qui va peut-être pas obligatoirement dans ce sens-là. Rashi dit que onkeles, il a pas traduit comme ça. Onkeles, il a fait comme si c'était Moshe Rabbeinu qui était allé quasiment rassembler les gens et pas que les gens sont venus d'eux-mêmes. Et Rashi n'est pas d'accord, oui. Et Sheshet Yamim Ikdim Lahem Azarat Shabbat Tetsivuyem Lechet HaMishkan. Moshe Rabbeinu, quand il parle au peuple, quand il rassemble le peuple, contrairement aux ordres qu'il avait reçus d'Hachem, il a inversé l'ordre. D'accord. L'ordre s'est donné, quand Hachem a donné l'ordre, c'était Mishkan Shabbat, et lui, il a pris l'ordre Shabbat Mishkan. Loma, pourquoi? She'eno doche et Shabbat. Il voulait mettre l'accent sur le fait que ça n'est pas d'Ohre Shabbat. La construction du Mishkan n'est pas d'Ohre Shabbat. Et puis, voilà. Dans le chapitre 31, là, le verset qu'on a vu, quand Hachem donne l'ordre à Moshe, d'abord le béni Israël les morts, ach et shaptotai tishmoru, ki ot hi beni ou benechem. Parce que c'est un signe, le Shabbat est un ot, un signe entre moi et vous, pour toutes les générations, pour que vous sachiez que c'est moi Hachem qui vous sanctifie. Donc, quand on parle du Shabbat, ben, on met en avant Othi, c'est parce que c'est un signe. D'accord? Vous devez garder Shabbat parce que c'est un signe entre vous et moi, dit Hachem. Mais ici, mon cher Rabbeinu, il ne leur dit pas tout ça. Il dit simplement, celui qui va faire des travaux au Shabbat, peine de mort. Et puis il dit, et il ajoute comme quelque chose dont on n'a jamais parlé encore, L'oteva ruesh bechol mashkotechem biyom haShabbat. Vous ne ferez pas brûler du feu dans toutes vos résidences le jour de Shabbat. Rashi, l'otvar uesh, yesh merabetinu omrim avara lelav yatsad, yesh omrim lechalek yatsad. Alors tout de suite je reviens là-dessus, mais regardez ceux qui ont un sforno. Le sforno, il a lu comme ça. Ela advarim asher tziva. Il dit, voici les paroles qu'Hachem a ordonnées. Ma she'amarti lemala, k'she'tziviti etchem, et kol advarim asher diber Hachem, iti, be'ar Sinai, ce que je vous ai dit plus haut quand je vous ai raconté que tout ce qu'Hachem m'avait dit de voir vous communiquer, vous ordonner, quand j'étais au Sinaï, et madvarim shetziva la'asot bimeachol. Ce sont toutes des choses qu'il faut faire en semaine. Biyom ha'shvi'i yeh lachem kodesh, velo ta'asu bo afilu melechet ha'mishkan. Vous ne ferez aucun des 39 travaux, on n'a encore pas parlé de ces 39 là, Mais même pour le Mishkan, vous ne travaillerez pas. Kol ha'oseh bo melacha yumat, afal pi shei melechet mitzvah. Même si c'est une melechet mitzvah, c'est un travail prescrit par Hachem, si tu fais ça Shabbat, peine de mort. Vous voyez? Donc, on entend ici très bien dans le sforno que on aurait très bien pu penser qu'il y a un interdit de travailler Shabbat, mais quand ce travail est un travail profane, ou disons plus exactement, un travail qui n'est pas prescrit par Hachem. Mais quand Hachem me prescrit un travail, je ne travaille pas pour moi, je travaille pour lui. Donc peut-être qu'on peut faire ce travail Shabbat aussi. Mais la Havamina, c'était ce qu'on a pensé. Donc, ici, Ach et Shabtotai Tishmoru, ça veut dire un instant. Avec tout ce que je vous ai raconté, mais l'important c'est de tenir Shabbat. C'est plus important de tenir Shabbat que de construire le Mishkan.
Mais vous n'avez pas un truc pour le Shabbat, pour le Mishkan ou c'est pour le Mishkan?
Bien sûr, hein. Mais ça, dans l'ancien, après on va apprendre que on parle ici de la construction, pas du fonctionnement du Mishkan. Là, tu parles du fonctionnement. Le Ramban, il s'arrête sur le Kol Adat Bnei Israël. Il dit, Yichlol Kol Adat Bnei Israël, Hanashim Vanashim. Ça inclut, là, donc le rassemblement incluait tout le monde, les hommes, les femmes. Kikulam Itnadvu Bimlechet Amishkan. Puisque tous ont participé en donnant au Mishkan, Vine Moshe Achash et Tziva le Aaron Vansim, le Kol Bnei Israël Anashim, Kol Asher Diber Hashem Ito, Be'ar Sinai, Acharei Shivur Hamluchot, Ve'natan Al Panav Amasve, Chazar Ve'tziva, Ve'ikilu Elav, Kol Haeda, Anashim Ve'nashim, Ve'taf, les enfants aussi, Ve'tache Be'yom Mahorat Rilto. Le Ramban dit, il se peut, il dit pas de façon certaine, il se peut que cela se soit déroulé le lendemain de sa descente, c'est-à-dire dans le lendemain de Yom Kippour. Ve'amar le kulam inyan ha-mishkan asher nitztave bo mitchila kodem shvur ha-manah luchot. Et la chita du Ramban, ici vous entendez, il dit, il leur a dit à tous les ordres qu'il avait reçus d'Hachem avant, concernant le Mishkan d'ailleurs, avant qu'il brise les tables, c'est-à-dire avant le Chetah Egel. Kivan shenitrat selahem akadosh baruch hu venatan aluchot shniot vekarat imo brit chadasha shehashem bekirbam. הנה חזר לקדמותם ולאהבת כלולותם ובידוע שתהיה שכינתו בתוכם כעניין שציווהו תחילה כמו שאמר ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם, לכן ציווה אותם משה עתה בכל מה שנצטווה מתחילה. רמב"ן דיא que ce dont on a parlé précédemment, ça n'avait été dit qu'aux hommes. C'est les hommes qui étaient en charge, etc. Et comme les femmes ont également donné, alors il a rassemblé tout le monde, et il leur a dit, et alors il leur a dit les choses qu'ils n'avaient entendues avant la faute du veau d'or, parce que pour bien montrer que le pardon d'Hachem était un pardon total qui leur permettait de se retrouver là où ils étaient avant de fauter. Et il continue. Et les advarim asher tziva Hashem la'asot, voici ce que Hashem a ordonné de faire. Sheshetimut asher melacha. Amar ele הדברים אשר ציווה השם לעשות. A priori, le Ramban dit, où est-ce qu'Hachem a donné les ordres? On ne voit pas ici, c'est l'introduction. Elle a dit, אשר ציווה השם לעשות אותם. Alors, lui il a dit, voilà ici les choses qu'Hachem a ordonné de faire, c'est מלאכת המשכן. Ce début du verset, il parle, enfin le verset en question, le premier verset là, il parle, Ele advarim asher tziva Hashem la'asot otam, mela mishkan. Ça parle, les dvarim en question, c'est les travaux de construction du Mishkan. Le kolkelav et tous les ustensiles aussi, de tout le mobilier du Mishkan, etc. Le kolavodato, et aussi les ordres qui concernaient la avoda elle-même. Ve'igdim ha-shabbat lemor ki sheshet yamim te'aseh melacha eile advarim velo beyom ha-shvi'i shehu kodesh. Mais pas le septième jour qui est kodesh, ומכאן שאין מלאכת המשכן דוחה השבת. Et de là on apprend que le travail de construction du Mishkan, donc par la suite du Bet HaMikdash aussi, ne repousse pas le Shabbat. Et il dit velo mi midrash, et c'est pas la drasha de Ach à cause du Ach et Shabtotai Tishmoru. Dit-il, comme je l'avais expliqué, donc il a l'air d'être revenu là-dessus, comme je l'ai expliqué dans la parasha précédente. Maintenant, qu'est-ce que la Torah elle vient nous dire maintenant que l'autre va à Rouesh Bechol Moshvotechem? Vous ne ferez pas de feu dans toutes vos résidences de Shabbat. Qu'est-ce qu'avait dit Rashi? L'otva ruesh. Donc Rashi avait ramené la machloquette de la Gemara. Si c'est le lav yatsa ou le chalek yatsa. Je reviens tout de suite là-dessus. Le Ramban, il dit, Inyana katubaze vadai raoul le sor be Shabbat gam lechetorel nefesh. Puisque c'est marqué Kol haose bo melacha yumat. Donc on comprend bien Shelo yivaru gam esh lefot lechem ulbashel basar. Ki esh tzorech kol ma'achal v'utzrach lomar ken mipnei Shelo amar haose bo kol melacha kasher amar ba'aseret hadibrot v'lo ta'ase kol melacha. ואמר מלאכה, סתם. והנה אפשר שנוציא מן הכלל מלאכת אוכל נפש. וכן נאמר בחג המצות, לא תעשה מלאכה ואין אוכל נפש בכללו. וכך הזכיר בפירוש שאף אוכל נפש אסור בו. כלומר, לשון ניסי ומצאתי במדרש רבי נתן, אומר, לא תבערו אש בכל מושבותיכם ביום השבת. למה נאמר? לפי שהוא אומר, ויקל משה את כל הדת בני ישראל, שומע אני, יהיה רשאי להדליק לו את הנר, להטמין לו את החמין ולעשות מדורה בשבת, תלמוד לומר לו, תבערו אש בכל מושבותיכם ביום השבת. וזה קרוב למה שאמרנו, שלא היו מלאכות הללו, שהן הנאה לגופו בכלל איסור הראשון. ורצה רבי נתן לומר שלא בא כתוב לאסור אפייה ובישול ושאר צורכים באוכל נפש, כבר נאמר להם את כל אשר תאופו אופו ואת אשר תבשלו בשלו, אבל עדיין כל המלאכות שאדם נהנה בהם ואין נושאים אלא הנאה לגוף, כגון הדלקת הנר, מדורה, רחיצת כל גופו בממון, בחמין, יהיו מותרות, כי זה מעונג שבת. וכך נאמר לו תבערו אש בכל, לאסור הכל. Donc le Ramban ici, vous avez vu, il est tout en longueur. Mais le fait ochel nefesh, c'est quand on cuisine. Tout ce qui est nécessaire pour la cuisine, ce qui est permis Yom Tov. Yom Tov non plus, on n'a pas le droit de faire les travaux, mais Yom Tov, on peut cuisiner. Donc le fait ochel nefesh, on pourrait penser qu'on peut, pourquoi? Parce que c'est un oneg Shabbat. L'oneg Shabbat, c'est d'avoir de la nourriture fraîchement cuisinée, etc. Donc on devrait pouvoir, à ce titre-là, cuisiner Shabbat. Et c'est parce que cette svara-là est tout à fait acceptable que le pasouk est obligé de nous dire l'autre va rouesh, vous n'allumerez pas le feu. Et comme le feu est quasiment nécessaire, essentiellement dans quasiment tous les travaux, en particulier ceux de Ochel Nefesh, on a compris qu'on ne pourra pas cuire et cuisiner, etc. Tout ça. Alors, on revient à la marloquette de la Gemara. Abban, en passant, il a dit que dans Aseret HaDibrot, quand il a parlé du Shabbat, c'est marqué « Lo ta'aseh kol melacha ». Et ici, c'est pas marqué kol melacha. Ici, c'est marqué lo ta'ase melacha. Ou ta'ase melacha de kol ha'ose bo melacha yumat. Alors, on aurait pu penser justement que tous ces, une partie de ces travaux qui sont des travaux qui donnent une jouissance, donc qui contribuent au Nek Shabbat, on devrait pouvoir les faire. Alors donc le Pasuk a dit non. Mais maintenant, c'est écrit Lo tevaru esh bechol moshevotechem yom Shabbat. Alors la Gemara elle dit, c'est interdit d'allumer le feu. Il est inclus dans Kol Hamelacha, toutes les Melachot. C'est partie de l'ensemble des Melachot. Pourquoi est-ce qu'en particulier vous ne ferez pas de feu dans vos résidences? Et c'est d'ailleurs la seule Melacha qui est mentionnée explicitement. Et les 39 travaux ne sont pas mentionnés explicitement. On les déduit du mot Ele, de Ele Advarim ici. Alors, comment est-ce qu'on va interpréter cette singularité de l'interdit de l'otvar wesh de faire du feu? Alors, pardon? Non, ça on avait déjà vu, ça. C'est le verset oui, mais maintenant, pourquoi ce lave-là est sorti? Alors d'abord, c'est marqué l'otvaru. Donc, c'est yatsa min haklal de kolam lachot. Et c'est un lave. Marqué l'eau. Et sur un lave, on reçoit quoi quand on transgresse? Makot. Or, les mlachot, c'est marqué yumat. Donc on pourrait penser, alors que pense une des opinions, un des Tanaïm, que il y a une exception. Toutes les mlachot, les 39 autres mlachot, si on les transgresse, on est passible de mort. Mais celle-là, on est seulement passible de coup. Si vous deviez donner une explication, qu'est-ce que vous diriez? Vous aide un petit peu. La mlacha qui est interdite Shabbat, c'est ce qu'on appelle mlechet marchevet. C'est-à-dire, littéralement, ça veut dire un travail pensé. On sait que la transgression, vraiment transgresser l'interdit de la Torah, c'est seulement si on a fait le travail interdit comme un artisan. Ce qui fait que nous, la plupart du temps, même quand on est mechalel le Shabbat, alors, probablement, il y a beaucoup de choses, ce ne sera pas minatora. Parce que nous, on ne sait pas faire, on n'agit pas comme des artisans. Que même quand nous, on plante un clou, on voit très bien qu'on ne sait pas tenir un marteau. D'accord ? Pas seulement parce que de temps en temps on se tape sur les doigts, mais on voit très bien que l'artisan il a une certaine manière de tenir son marteau, etc. Et du coup, c'est possible que même planter un clou Shabbat, ça sera seulement un derabanan pour nous. Ça, ils ont mis la Torah. Mais nous, ils sont derabanan, ça, ils sont quand même. Hein. C'est pas fait, c'est permis. Alors c'est Melachet Marchevet. C'est-à-dire c'est un travail artisanal qui est fait avec dans toutes les règles de l'art. Ça devrait vous aider un peu. Bon, il faut savoir un feu, il faut aussi savoir le.
Ouais, mais c'est un spécialiste du.
D'accord. Mais maintenant, ce qu'on peut dire, c'est. À quoi il sert le feu? Le feu, en général, pas une fin en soi. C'est un moyen pour arriver à quelque chose. Donc on pourrait comprendre que qu'on a déjà interdit le feu, dans toutes les circonstances, mais c'est seulement un lav, parce que la plupart du temps, le feu n'est pas encore une melacha en soi. Il est au service d'autre chose. Donc les autres melachot, qui sont des melachot complètes, alors on peut dire, voilà, chacune d'entre elles est... rêve carrette, mais autrement, ici sur le feu, peut-être qu'on peut comprendre pourquoi. Maintenant, il y a une autre opinion à ce sujet-là, qui dit que le fait que le feu soit ici, l'interdit du feu soit mis en évidence de cette manière-là, ça vient pas pour dire quelque chose sur le feu, mais pour dire quelque chose sur les autres mlachot. Il est sorti yatsa min haklal, l'amed à la klal. Il est sorti de la généralité pour donner une information, pour enseigner quelque chose qui concerne le klal. Qu'est-ce que c'est, vous vous souvenez? Dans le pasuk c'est marqué, lota ase kol melacha. Donc, je pourrais penser que kol melacha, qu'est-ce que c'est, d'où on prend la définition? Qu'est-ce que c'est que le melacha? D'où est-ce qu'on sait ce que c'est qu'une melacha? Oui. On apprend justement de la juxtaposition de Shabbat et des lois du Mishkan que les travaux fondamentaux, les fameux 39 travaux, il y en a 39, on le déduit de Elé Advarim, parce que Elé c'est la gematria, en gematria ça vaut combien? Ah non? Eh ben non. Elé, Aleph, Lamed, He.
Ah, c'est 36.
C'est combien, 3 lettres? Elé. Il y a encore d'autres explications, ça fait 39. C'est très acrobatique. Bon, c'est énorme, quoi. Enfin, tout Shabbat, sur cette espèce de fausse gematria, en fait.
Ah, c'est 36 plus ces 3 lettres de Elé, c'est ça?
Oui. Comment tu fais 39? Ça fait que 36 ici. Non, mais il y a une autre explication que, comme ça va sur Dvarim, c'est les. J'aurais pensé que Dvarim c'est un pluriel, et puis après, bon, ben, il y a toute l'histoire 1 et 2, ça fait, on peut le faire le 3, non pas de, avec les 3 lettres, mais. Avec en utilisant la notion de pluriel, etc. C'est une dracha. Oui. Pardon?
Non, je dis pluriel, c'est deux, mais il m'a répondu oui, sinon c'est deux puissants, parce que Elé, c'est un et deux.
Alors, le. Que je suis en train de vous raconter.
Il n'y a pas une notion de travail créateur.
Mais c'est ça, pas créateur, mais marqué bête. Un travail qui. Un travail pensé. Ça va être un travail créateur. Un travail qui est pensé, c'est un travail. Tu penses quelque chose, donc c'est créateur. C'est, tu vas inventer quelque chose. Tu vas construire quelque chose qui n'était pas là. Alors, le. Oui, alors, on va dire comme ça. Étant donné que j'ai 39 travaux, et ces 39 travaux sont unifiés dans la construction du Mishkan. Donc il y aurait une avamina que je ne transgresse le Shabbat que si j'ai fait les 39 travaux. Alors maintenant, le fait que sur l'une des melachot, on a dit qu'elle était interdite et qu'elle était sanctionnée, j'en déduis qu'elles sont toutes du même ordre et que chacune d'entre elles est une melacha sanctionnable pour soi-même. D'accord? Donc j'ai 39 melachot, chacune d'entre elles étant sanctionnable. Donc ou bien l'autre baroèche vient dire que l'esh a un statut à part, ou bien il vient avec son pouvoir séparateur, enfin une espèce de... Puisque lui il est... Notre Baruch est sorti du klal. Alors il vient enseigner sur le klal. Là, c'est marqué l'autre assez. Il y a un interdit sur une seule melacha. Donc, je dis, il y a un interdit sur chacune d'entre elles. Voyons le Moshe, el kol adat b'nei Israël, les morts. De nouveau la même chose. Kol adat b'nei Israël. Ils l'ont dit. Ze adavar asher tziva Hashem les morts. Voici la chose qu'Hachem a ordonnée pour qu'elle soit redite, les morts, pour qu'elle soit redite. Alors vous voyez ici, c'est marqué Ze adavar. Avant, c'était marqué Ele advarim. Ele, c'est le pluriel de Ze. Et donc, certains veulent dire ici, Ze adavar, ça porte sur quoi ici? Sur la construction du Mishkan. Ze adavar, Hashiva Hashem les morts, Krumi, Trem, Truma, Hashem, etc. Et tout, on est reparti pour la redescription du processus de collecte et puis ensuite de construction du Mishkan. Et donc là, on va dire, Ele advarim face à Ze adavar. Là, on voit très bien que Shabbat, comme tel ici, le Shabbat est plus fort que le Mishkan. Ele versus Ze. Ze adavar asher tziva Hashem, li lemor lachem. Rashi rapporte que Moshe Rabbé nous dit, voilà ce qu'Hachem m'a ordonné de vous dire. C'est intéressant parce que quoi, quand Moshe Rabbé nous jusque là, quand Moshe leur parlait, on ne savait pas. C'est pas Hachem lui a ordonné de leur dire. Pourquoi Rashi a attendu jusqu'à Vayakel, on est presque à la fin de Sefer Shemot, pour donner le pshat de Vayomer? Alors c'est pas le Vayomer, c'est Asher Tziva Hashem, qu'Hashem a ordonné. Pourquoi Rashi a dit que c'était Li? Qu'est-ce qui fait penser à Rashi que c'est Li? C'est à moi que Hachem m'a ordonné. Moshe Rabbeinu aurait pu dire Ze adavar asher tzivanu Hachem, qu'Hachem nous a ordonné. Moshe Rabbeinu fait partie de ceux auxquels ça a été ordonné, comme tout le monde. Alors on dit Asher Tziva, qu'Hachem a ordonné, on ne sait même pas, on ne sait pas à qui en réalité ici. Comme c'est ambigu, alors Rashi a dit, bon, ça veut dire, ce qui est sûr, c'est qu'il a parlé à Moshe, donc, à la limite, c'est, si on veut aller à coup sûr, il faut dire que ça a été parlé à Moshe. Krumi trem truma l'Hachem, kol le divribo yevia. Et Trumat Hashem, Zahav Achesef Nechoshet. Donc prenez de chez vous un prélèvement pour Hashem. Tout celui qui, que son cœur portera, amenez-vous, oui, il vient à être Trumat Hashem. Il amènera cette Trumat Hashem en or, en argent et en bronze, en fait. En cuivre. Et Utrelet Vergaman Vetolat Shani, Shesh Veizim, et on mettra du Trelet, donc ce fameux bleu, et Argaman du rouge, Vetolat Shani, c'est la pourpre et l'argaman, et l'écarlate, Veshesh, c'est du lin, Veizim, et des peaux de chèvre. Verot Elim, et des peaux de bélier, Meodomim, alors roux, enfin quelque chose comme ça. Veorot Trachim, alors le Tachash c'est un animal qui n'a existé qu'à ce moment-là. Il faut qu'on en prenne la peau et qu'on utilise cette peau pour faire il y avait une suite de peaux les unes au-dessus des autres sur le toit du Mishkan. Vatsé Shittim et les fameux bois d'acacia, comme on a vu. Shemen Lamaor et l'huile pour la menorah, ou Psamim le Shemen Amishra et des parfums pour parfumer l'huile d'onction, Veliktoret et aussi pour fabriquer l'encens, et des pierres de Shoam et des pierres qu'on va sertir dans le pectoral, l'Ephod et la Rochène. Sur l'Ephod et sur le Rochène, Kol Chacham Lev Bachem Yavou, V'yasu et Kol Asher Tziva Hashem. Tout celui qui est Chacham Lev, qui a la sagesse du cœur, parmi vous, il viendra et il fera ce qu'Hashem a ordonné. Rashi, Nediv Libo, Hashem She Libo Nadvo, Krao Nediv Lev. Parce que, comme c'est un mouvement du cœur, alors lui on l'appelle Nediv Lev. Kvar Pirashti Nidvata Mishkan, Umlachto Makom Tsivitam. J'ai déjà expliqué que là où Hachem avait leur donné l'ordre, j'ai expliqué, je ne vais pas réexpliquer toute l'histoire du Mishkan. Donc Moshe Rabbeinu redonne l'ordre, enfin, c'est un nouveau récit, parce que Moshe Rabbeinu a donné ses ordres. Les gens ont effectivement apporté tout ce qu'ils devaient apporter, ce qu'on leur avait demandé. Et à Mishkan, le Mishkan, la tente, et ce qui s'arture, Krasav, Krasham, Brifav, Amudap, Vetadonav, donc tous les piliers, crochets, on appelle le truc sur lequel on met le pilier, les socles. Et donc, et les piliers aussi. Et Aaron, Ved Badav. Le Aaron et les barres qu'on met dans les crochets pour porter le Aaron. Et ta Kaporet. Et la caporette, c'est le toit, enfin, le couvercle du Aaron. Et Paroch et Amasach, et aussi le rideau de séparation. Le Shulchan et ses Kelim. Kol Kelav. Et le Lechem HaPanim, la menorah. Kelim, tout ça, c'est cette liste de choses qu'on a déjà vues. Seulement, pourquoi est-ce qu'elles sont répétées ici? Le misbar sur lequel on faisait brûler la hola, les holotes, pardon. Bon. Et les bganes, oui. Les bgadim, qui sont les vêtements de service pour le Kodesh, pour Aaron et ses fils. Vayetsu kol ha'eda, kol adat bnei Israël milifne Moshe. Et à ce moment-là, quand il a fini d'énumérer tout ça, tout le monde s'est retiré, ils ont quitté Moshe. Qu'est-ce que c'est que cette redondance en quelque sorte dans le texte? Alors, le Ramban il considère que tout ce qui est demandé ici au Bnei Israël, c'est quasiment de l'ordre du miracle. Parce que dit-il, ces gens-là, ces gens qui étaient complètement investis dans quoi? Dans la fabrication du mortier, essentiellement. Même si quelqu'un avait été un artisan, il aurait perdu la main à faire ça pendant des années, à travailler grossièrement la terre. Quoi. Mais en vérité, il existe un midrash qui dit que il y avait parmi eux toutes sortes, en Égypte aussi, il y avait parmi eux des gens qui avaient une certaine culture. Il y avait peut-être, disons, qu'on dirait dans notre langage aujourd'hui, qu'il y avait des ingénieurs, des chefs de chantier, des gens qui avaient une vue un peu plus large et qui connaissaient d'autres choses que les autres avaient quasiment devant le nez, à savoir la boue, les briques qu'ils fabriquaient. Alors, il dit que les gens, on leur a dit, le divlev, ça veut dire que quelqu'un s'est senti porté, il a pensé, moi je peux le faire. Il n'a jamais fait de sa vie, mais il pense qu'il peut le faire. Et on leur a demandé de faire des choses qui étaient loin d'être classiques. Ils ont dû, par exemple, on voit très bien que on a tissé, c'est pas de la broderie, on a tissé un tissu de telle sorte qu'il y avait des motifs différents d'un côté et de l'autre, suite au tissage. Ça semble-t-il pas tellement évident. Mais ça aussi, ça va le faire. Ou bien on a fabriqué des constructions avec les poils de chèvre ou poils de chèvre, c'était. Et sur les, avant d'avoir fait la shrita de l'animal, ils ont fabriqué du fil, enfin avec les petits morceaux, et sur l'animal. Et après, quand on a fait la shrita, l'animal, on a enlevé le morceau quasiment avec la peau, etc. Donc lui, il pense que c'est quasiment un miracle. La Megdava, Metziv donc, lui, il n'est pas d'accord. Lui, il pense que il savait faire ça, parce que ils l'ont quand même vu faire, ils en ont entendu parler, ils ont vu faire, ils savaient faire les choses, mais ils ne les avaient jamais faites, et il fallait, pour lui, il fallait vraiment, le miracle, c'est d'avoir osé. Avoir osé se lancer dans un truc que t'as jamais fait pour le Mishkan, pour la résidence d'Hachem. Alors toute la construction du Mishkan était de cet ordre-là. Personne ne savait à l'avance comment ça allait sortir. Est-ce qu'on y arriverait, on n'y arriverait pas, puisque ça n'a jamais été fait. En tout cas, certainement pas par eux. Donc, ils ne pouvaient même pas savoir s'ils arriveraient au bout. Alors, là, on voit qu'ils ont été aidés. Siat Abishmaya, qui est venu, une aide du ciel, en d'autres termes, ils ont été inspirés, comme Betsalel a été aussi inspiré. Cette inspiration, ça leur a ouvert des possibilités. Intéressant, c'est ce qu'on a vu ici, c'est que Moshe Rabbeinu a convoqué les hommes, les femmes et les enfants aussi, dans cette version-là. Pourquoi est-ce que la version précédente, c'était qu'il avait convoqué que les hommes, et maintenant c'est une version qui dit qu'il a convoqué tout le monde. C'est peut-être un deuxième rassemblement. vous souvenez, on dit, il fallait les rassembler elles aussi. Non, pardon, c'est Ramban. Il faut les rassembler elles aussi, puisque elles ont été dans la même situation que les hommes. Oui.
Allô?
Oui.
Mais elle n'avait pas participé au Hegel?
Non. Mais comme on a vu, le clan Israël lui-même a fauté. Et donc il a fallu. Il a fallu régénérer le clan Israël dans sa totalité. Pas seulement ceux qui ont fauté. Puisque ça devait être une œuvre collective, le Mishkan. Ce qui est intéressant, c'est que, je vais parler de ça dans ce Shabbat aussi, si on regarde Vasuli Mikdash, ça s'adresse, c'est au pluriel. Donc, a priori, ça veut dire chacun doit être concerné, doit participer à la construction du Mikdash. Mais après, quand le Pasuk dit « Veshachanti betocham », ensuite quand il dit « Je résiderai en leur milieu », quoi, au sein. Qu'est-ce que ça veut dire « Veshachanti betocham » ? Tout le monde sait que le clan Israël était, quand il campait, il était organisé autour du Mishkan. Le Mishkan était au point central, et puis tout autour, il y avait les tribus. Enfin, d'abord, il y avait les Kohanim, les Levim, et puis ensuite les différentes tribus. Alors, si c'est pour dire que le Mishkan était le Tocham, ça veut dire qu'il est au milieu, on le sait, c'est, on n'a pas besoin d'un verset pour ça. Donc, la drasha de Chachamim, c'est quoi? C'est le dire, comment ça va la drasha de Chachamim, le Tocham? Nous, comment va la dracha? Oui, dans le cœur de chacun. Ça veut dire que la construction de ce Mishkan là dont on parle maintenant, c'est pas la fin des choses, c'est pas du tout la finalité de l'opération. Il faut construire ça pour que chacun ait en lui un Mishkan. Mishkan, ça veut dire résidence d'Hachem, n'est-ce pas? Donc, le Shachanti Betoham, je résiderai dans le cœur de chacun. Donc, chacun doit avoir un Mishkan en lui, dans son cœur.
C'est très fascinique comme la Shachanti.
Très quoi?
La Shachanti très fascinique.
Laquelle?
Fascinique.
Ah bon? Oui? Pourquoi tu connais? Et c'est l'Agmara, tu sais. C'est vrai que les Hasidim s'inspirent des fois de l'Agmara aussi, mais. Pourquoi tu penses que c'est hasidique?
Une sorte de transcendance comme ça qui vient.
De?
Que Dieu est partout, qu'il est.
Bah, pas du tout. C'est pas Dieu qui est partout, hein. C'est... On n'est pas dans le panthéisme ici, oui. Non, ça veut dire faire. Qu'est-ce que ça veut dire que Hachem va résider dans le cœur de chacun? Il n'est pas partout, justement. Il faut qu'il réside dans le cœur des gens. C'est un travail qui va être fait. C'est pas du tout qu'il l'est partout. C'est un travail humain. C'est le travail des hommes de se modifier, de fabriquer des conditions pour qu'Hachem puisse résider en nous. Alors du coup, la question qui se pose, c'est, mais alors, à quoi sert le Mishkan?
Ça
Et alors, pourquoi on a besoin de ce symbole si j'ai Hachem étant chacun d'entre nous?
C'est un exemple, c'est quoi un exemple?
Ben, c'est ça l'exemple. L'exemple, c'est il y a une construction collective donc, qui doit aider, parce que toute la Torah, on l'a reçue collectivement. La Torah, elle n'a pas été donnée à chacun d'entre nous directement comme ça. Donnée au clan Israël, enfin, disons à Moshe Rabbeinu, au clan Israël, et puis tous les gens qui appartiennent au clan Israël, ben, ils sont concernés par cette Torah qui a été donnée au clan. La même chose ici, le Mishkan, la résidence d'Hachem dans le clan Israël, elle commence par une résidence à titre collectif, peut-être, et ensuite ça l'a diffusé. C'est ça le modèle, c'est-à-dire qu'il faut s'inspirer de cette résidence. Alors, bien entendu, chacun va donc avoir un Mishkan différent. On n'aura pas le même Mishkan, parce que ce qui se passe dans mon cœur et dans le cœur de chacun d'entre vous, c'est pas obligatoirement la même chose. Donc, le Mishkan, c'est un Mishkan personnel, quoi, si on parle comme ça. C'est toujours la résidence d'Hachem, mais chacun d'entre nous pense la résidence d'Hachem différemment.
Généralement, c'est l'inverse.
Pardon, il.
Généralement, c'est l'inverse. C'est l'addition des individus qui fait la collectivité. C'est pas la collectivité qui inspire l'individu.
Non. C'est juste. Mais il y a des choses, c'est pas que la collectivité ne va pas faire l'individu, mais elle va servir de modèle. C'est comme ça qu'Hachem a dit à Moshe. Sous les migdash, je serai un petit peu tocham. Alors en vérité, c'est comme si de faire le migdash tel que Hachem nous a ordonné de le faire, c'est peut-être une indication de ce qui doit se faire dans le cœur de chacun. Mais pas avec des poteaux et des, parce que bon, ça bon, mais par dans l'intérieur de tous ces éléments qui sont nécessaires dans le Mishkan pour qu'il y ait présence divine.
Quand on prend l'amet kinel dans Kississon, exactement, je crois que c'est le numéro, c'est le chet, hein, on voit que Moshe va dans sa tente en dehors du Mahané, et que là il n'a besoin d'absolument aucun keli pour entrer en contact avec Akadosh Baruch Hu. C'est donc que les kélim ont quand même une valeur de caporeur pour ceux qui ont fauté. Et de reconstruction. Donc de je vais pas dire de prothèse, mais quelque chose comme ça.
Avec le Ramban qu'on a vu qui disait que ces choses-là ont été ordonnées à Moshe Rabbeinu avant la faute.
Oui, mais comment est-ce que j'explique le pasouk Voyo Ketset Moshe El Orel Vayokumu Kol Ohom Yitzvo, etc. Peisa Ole Oire. Voilà. Donc, ici, sont.
Quel est votre problème?
Bah, c'est-à-dire que Moshe Rabbeinu peut rentrer en contact avec Kadosh Baruch Hu.
Mais bien sûr, il peut rentrer en contact avec Hachem partout.
Oui, mais avec, dans le Ohel, un Ohel Moed, c'est écrit noir sur blanc Ohel Moed, sans qu'il y ait aucun keli dedans.
Oui, donc c'est très bien, ça veut dire n'importe où. Quel est le problème?
Il y a un deuxième Ohel Moed qui, lui, n'a pas besoin de tout ça.
Oui, bien sûr. Mais alors? Il y a un Ohel Moed, si vous voulez, qui est le Ohel Moed qui va servir quand Moshe ne sera plus là non plus. Donc, Ohel Moed de la collectivité d'Israël. Maintenant, Moshe Rabbeinu, où qu'il soit, il peut recevoir la parole d'Hachem. Les Neviim, même pour dire des gens qui ne sont pas à la hauteur de Moshe Rabbeinu, Mais les autres Nevi'im, ils ne recevaient pas la parole d'Hachem seulement dans le Moed ou dans le Beth Amikdash. Ils en recevaient où ils étaient. Recevoir la parole d'Hachem, ça ne nécessite pas ça ne nécessite pas les kélim dont vous parlez. Les kélim sont nécessaires pour les hommes. Quand les hommes veulent s'approcher d'Hachem, quand c'est Hachem qui décide de s'approcher de l'homme, il faut seulement que l'homme soit réceptif, c'est tout. Mais c'est ça la question. Comment se rendre réceptif? Bien sûr, le modèle du Mishkan. Le Mishkan, je ne suis pas sûr que le Mishkan doive être copié, pour les équivalents. Mais le Mishkan montre qu'il y a des conditions pour que Hachem soit présent. Il suffit, on ne peut pas faire n'importe quoi. Ça a des conditions qui sont d'une précision effarante. Oui, il faut inspirer les gens pour arriver à construire tout ce qui est à construire. Une fois que c'est construit, on va pouvoir faire fonctionner ce Mishkan et son successeur, le Beth Amikdash. N'oubliez jamais que le Beth Amikdash, il a été détruit quand on l'avait, pour la palissade. Hein? On a pu le Beth Amikdash, il a fonctionné jusqu'au dernier moment parfaitement. Les prophètes ne disent jamais, vous n'apportez pas les corbanotes qu'il faut apporter. Ils disent le contraire. Ils disent qu'Hachem dit, j'ai rien à faire de vos corbanotes. Dès lors que vous vous comportez comme des crapules à l'extérieur.
Alors justement, ça infirme parce que comment ça peut marcher, comment ça peut continuer à marcher parfaitement jusqu'au dernier moment, alors que c'est invalidé par ce que Hachem nous dit.
Parce que le formel, c'est facile à faire, le rituel, le formel, c'est facile à faire. Et c'était, c'est marqué dans Chazal que quand Titus, il faut pas nécessaire, c'est une chose qu'on dit, ils ont pensé. Ils avaient pris la maison d'Hachem, partout c'est marqué que c'était une coquille vide. Parce que les Bnei Israël, par leur faute, ils avaient fait en sorte que le Beth Amikdash d'en haut, qui est la nourriture de celui d'en bas, n'existait plus. Mais dans cette coquille vide, on peut faire tous les gestes qu'on veut.
Il n'y avait rien à profaner,
quoi.
Il n'y avait rien à profaner.
Et eux, ils ne pouvaient même plus profaner. C'est marqué dans tous les Sfarim qu'il est exclu d'imaginer que quelqu'un puisse, ça n'a pas de sens même dans la tête, on puisse prendre la résidence d'Hachem, détruire. Sinon, on pourrait presque dire ce qu'Abraham Ben Bino a dit à son père concernant la grande idole. Qu'est-ce que tu veux dire? Tu veux qu'elle protège les autres? Elle ne sait même pas se protéger toute seule. On peut dire la même chose sur le Beth Amikdash. Qu'est-ce que le Beth Amikdash, il ne sait pas se protéger tout seul. Alors c'est vrai, le Beth Amikdash, si on veut l'attaquer physiquement avec les lois de la guerre, il est intouchable. Sauf si préalablement il a déjà été détruit. Mais préalablement, on en a déjà fait une coquille vide. Et quand je dis une coquille vide, je ne veux pas dire qu'il ne s'y passait rien. Il s'y passait plein de choses, mais qui n'avaient plus aucun sens.
Pour Hachem. Ça
n'a plus de sens pour Hachem. Oui, probablement que pour les gens qui faisaient les choses, ça n'a plus beaucoup de sens non plus, dans la mesure où eux aussi se comportaient. C'est marqué, les Navi dit, les Kohen, ils n'ont pas enseigné la Torah, les chefs, ils sont comparés à des Ktsinim de Sdom et Amora. Ils n'enseignaient pas. Ils n'enseignaient pas la Torah. À partir du moment où ils n'enseignent pas la Torah, c'est quoi? C'est des pantins, je veux dire, même pas. Eux aussi, ils tournent à vide. Il ne suffit pas de faire les choses. Nous aussi, on sait très bien, on peut faire des mitzvot machinalement. Qu'est-ce que c'est qu'une mitzvah qu'on a faite machinalement? Ouais, je veux dire, voilà. Pendant ce temps-là, moi, on ne faisait pas d'autres mauvaises choses. Quoi. Mais qu'est-ce que ça, quelle valeur ça a?
Ça fait de l'homme quelqu'un de divin, quoi, d'invincible sur ce modèle-là.
C'est l'homme qui
le Shabbat plus étoffant, ça ferait, de la manière que le Michel quelque chose d'indestructible, ça ferait de l'homme quelqu'un aussi de...
Mais l'homme sera indestructible, enfin l'être humain est indestructible, s'il a une présence divine en lui, tu peux lui faire ce que tu veux à soi, mais lui, comme tel, il est indestructible. Il est totalement serein, tu peux faire ce qu'il veut, il ne va pas être... Il ne sera pas affecté, tu peux le réduire en miettes. Mais bon, ça ne change rien.
Qu'est-ce que ça veut dire on voit le... Je crains qu'il y a une partie de la Neshama qui est reliée, mais c'est plus que ça alors. C'est quoi avoir une Neshama à l'intérieur?
Qu'est-ce que ça va changer si Hachem réside en moi ou pas?
Mais ça ne change pas la nature de Hachem.
Non, on ne parle pas de la nature, on ne connaît pas. Mais dans ma conduite, ça va changer quoi?
Ça change tout.
Si je dis qu'Hachem réside en moi, ça veut dire que Hachem sera partie prenante dans les décisions que je vais prendre. Et s'il réside vraiment en moi, ben, je ne prendrai aucune décision qui serait à la volonté d'Hachem. Donc ça veut dire, c'est un homme quasiment parfait. C'est ça, faire en sorte qu'Hachem réside parmi moi, dans chacun d'entre nous, c'est faire en sorte que les gens, ou chacun, se conduisent aussi parfaitement que possible et intérioriser la Torah, quoi, finalement. Puisque Hachem et la Torah, c'est la même chose.
Alors j'ai un problème. Pourquoi il a fallu qu'on fasse d'abord